Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, journée spéciale sur France Inter avec les Ukrainiens. Nous sommes dans ce 13-14, dans le 19e arrondissement de Paris, dans ces deux immeubles où sont rassemblés une église orthodoxe, une école ukrainienne, une bibliothèque et les locaux des scouts ukrainiens. Vous entendez sans doute l'activité autour de moi. Les scouts ont lancé un appel à l'aide la semaine dernière, appel entendu au-delà de toute espérance. Exemple, Manon, elle habite le quartier, elle est passée les bras pleins.
Alors, il y a une partie des choses que j'ai achetées. Et il y a ça, c'est typiquement c'est un don du pharmacien. C'est des compresses. Il y a une partie qui est achetée, une partie qui est donnée. Du coup, je vais essayer de faire le tour des pharmacies parce que je sens que les pharmaciens sont prêts à donner en fait quand on leur dit. Donc, ils ont plein de choses. Donc, plutôt que de trier, je peux peut-être aller faire le tour des pharmacies.
Manon et les donateurs, mais aussi les bénévoles et les associations, nous vous ferons vivre ce mouvement de solidarité pour les Ukrainiens ici dans le 19e arrondissement et dans les studios de France Inter. Les autres titres de l'actualité, c'est avec vous, Frédéric Barrère.
Bonjour Bruno, bonjour à tous. La guerre en Ukraine et à l'issue du Conseil de défense ce matin à l'Élysée, Emmanuel Macron annonce sur Twitter qu'il s'adressera une nouvelle fois à la nation ce soir à 20h, une allocution exclusivement consacrée à la guerre en Ukraine. Sur le terrain, les opérations militaires se poursuivent au 7e jour de l'offensive russe. L'armée russe annonce la prise de la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine. Des troupes aéroportées russes ont pris position à Kharkiv dans le nord du pays. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux à Kiev et en Ukraine dans un instant. À Moscou, où le contrôle de l'information est un enjeu majeur en situation de guerre, la chaîne de télévision Dojd et la radio Écho de Moscou, vitrine du journalisme libre en Russie, ont été bloquées. Moscou accuse ses médias de propager de fausses informations. Dans ce journal également, Christiane Taubira met fin à sa campagne présidentielle. Elle n'a pas les 500 parrainages nécessaires pour valider sa candidature. Et puis notre chronique cinéma du mercredi avec sur les écrans The Batman et Robuste avec Depardieu, Bruno.
Et à la fin de cette émission, Jean Lebrun nous rejoindra ici avec la communauté ukrainienne de Paris pour un vif de l'histoire sur la diaspora ukrainienne. France Inter avec les Ukrainiens. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14, édition spéciale.
Et dans ces locaux des scouts ukrainiens dans le 19e arrondissement, j'ai autour de moi des cartons, plein de cartons. Je vois des cannes anglaises, je vois des soupes lyophilisées, des produits d'hygiène. Et il y a une petite dizaine de personnes autour de moi qui sont en train de s'activer pour remplir les cartons, pour essayer de mettre de l'ordre, pour préparer l'envoi de tous ces produits en Ukraine. Le local n'ouvre en principe qu'à 14h, un peu plus tôt aujourd'hui, mais on a vu passer des gens toute la matinée. C'était la ruche aussi hier soir quand nous sommes venus faire des pérages. Voici au micro de Thibaut Cavaillès. Elle a 58 ans, origine ukrainienne, infirmière en région parisienne. Ça fait 30 ans qu'elle vit en France et qu'elle suit de loin l'histoire chaotique de l'Ukraine. Elle est venue donner de son temps.
J'ai vécu la dissolution d'ex-Union soviétique. J'ai vécu toutes les révolutions, mais de loin. J'étais en France depuis 30 ans. J'ai vécu les révolutions de distance. Et là, c'est l'éclatement de tout ce qui est post-soviétique. Qui s'est produit actuellement, c'est inimaginable ce qui s'est passé. Donc je ne peux pas être au dehors, je peux être que dedans. Et je sens qu'il y en a tellement chaleur, il y en a tellement de... Pour moi c'est quelque chose de tout nouveau, je suis très émue, j'arrive même pas de parler tellement, j'ai des chairs de poule. Et je ne peux pas être au dehors, je suis médecin en France, je suis infirmière dans ces services de chirurgie. Donc je connais les pansements, je connais tout le matériel médical bien comme il faut, donc je suis venue donner un coup de main. Et là, c'est un élan de solidarité de tout le peuple de l'Europe, et pas que l'Europe, États-Unis, Canada. On est ému, on est exténué, parce qu'on ne dort pas déjà depuis quelques jours. Et les Français avec nous, les Allemands avec nous, tout le peuple d'Europe est avec nous. On est tous ukrainiens.
Irena avec Thibaut Cavaillès, d'autres témoignages, l'aide humanitaire, le logement, les échos de la guerre qu'ont ici les Ukrainiens de Paris. C'est dans 20 minutes, nous serons notamment avec Olenka Bondar, elle est tout près de moi, collée à son téléphone depuis ce matin. C'est la trésorière des scouts ukrainiens. Je pense que son portable est le plus bouillant de Paris et elle me disait tout à l'heure qu'elle avait 173 textos en attente, Frédéric Barrère.
La guerre en Ukraine et une situation sur le terrain toujours très préoccupante. Avec ces désinformations à la mi-journée, des troupes russes aéroportées ont débarqué à Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, la deuxième ville du pays. Et l'armée russe qui affirme avoir conquis la ville de Kherson, 300 000 habitants dans le sud du pays. Cette ville située à une centaine de kilomètres au nord de la Crimée fait l'objet de vifs combats depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Et au-delà de la guerre meurtrière sur le terrain, je vous propose d'entendre le témoignage de René Barotin. C'est l'illustration d'une autre guerre, celle de la communication. René Barotin est un retraité vendéen de 72 ans et il est bloqué dans le centre-ville de Kherson.
Ah, je suis dans le centre-centre. Je suis devant l'hôtel de la, où il y a des manifestations patriotiques, il y a tout ce qui se passe là. Et je donne dessus. Toute la matinée, il y a eu les chars de défense Ukraine. Mais alors, c'est des chars de bric et de broc. La ville est très grande. Ils ont pas pris la ville. La preuve, parce que ce matin, j'étais chercher mon pain, mais à un kilomètre, à peu près 700-800 mètres, j'ai pas vu un Russe. J'ai vu des hommes en civil, en armes. C'est les partisans, quoi, comme on dit. Ils ont pris la gare et le port. C'est tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de partisans, de gens qui ont pris les armes, là. Donc ils sont aux quatre coins des rues. Ils vont peut-être pas, ou alors il faut qu'ils bombardent. Alors, on n'a pas été bombardés, mais cette nuit, je peux vous dire que ça fout la trouille. Il y a pas des missiles, mais des trucs qui passent à une vitesse épouvantable et puis qui pètent, quoi. Il y a eu de la bagarre, hein, quand même. Et j'ai voulu aller me mettre aux abris et mes contacts m'ont dit non, on risque rien.
René Barotin, retraité vendéen de 72 ans, bloqué à Kherson, un témoignage recueilli par Béatrice Duguay. On retrouve l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Valentin Dunat. Bonjour Valentin. Valentin,
bonjour.
Vous vous trouvez au sud de Kiev. De quelles informations disposez-vous sur la prise de Kherson, annoncée en tout cas par la Russie ?
La situation est confuse, hein, et avant même de vous répondre, il faut bien réaliser, et vous l'avez dit il y a quelques instants, hein, que cette guerre se joue également sur le terrain de la communication. Selon des officiels ukrainiens, l'armée russe est bien rentrée dans la ville, mais les Ukrainiens contrôlent toujours les bâtiments administratifs. Selon plusieurs images diffusées par des habitants, il est possible en effet de voir des soldats russes dans la ville. Ce qui est certain, c'est que de violents combats ont lieu en ce moment à Kherson, sans pouvoir vous préciser à cette heure qui contrôle cette ville.
Alors, l'autre ville, la situation à Kharkiv, au nord du pays, est également alarmante. Des troupes aéroportées russes ont débarqué dans cette ville la nuit dernière, Valentin.
Oui, des troupes aéroportées et des bombes, hein, où pas un secteur de la ville n'y a échappé. Des frappes aériennes dans cette ville du nord-est du pays, à 30 km de la frontière russe, qui ont touché les sièges régionaux des forces de sécurité et de police, l'université, mais également des zones résidentielles. Et au regard des dégâts causés, il s'agit là de bombes de plus de 200 kilos, extrêmement dévastatrices. Selon le gouverneur de la région, au moins 21 personnes ont été tuées, plus d'une centaine de blessés. Cette ville, Kharkiv, n'est pas visée par hasard. C'est la deuxième ville du pays, la capitale historique. Et vous l'avez dit, une ville en proie à de violents combats au sol, des troupes aéroportées. En d'autres termes, des troupes d'élite larguées d'un avion ou déposées au sol par hélicoptère qui ont notamment attaqué un hôpital.
Valentin Dunat avec Arthur Gerbeau au sud de Kiev. Merci à vous. Alors nous irons dans un instant à Kiev, toujours sous la menace d'une offensive russe, mais les événements de la nuit dernière et l'annonce de la prise de Kherson et des combats dans le sud suscitent beaucoup de questions sur les véritables objectifs stratégiques de Vladimir Poutine. Pierre Servan, spécialiste des questions de défense, était l'invité ce matin du 7-9 de France Inter. Et selon lui, l'important pour le président russe semble être plus que la prise de Kiev, la mainmise russe sur l'Est et le Sud de l'Ukraine. Pierre Servan avec Jérôme Cadet et Alexandra Ben Saïd.
Plus j'avance, plus je suis convaincu que le seul objectif stratégique de Poutine, c'est le Sud et l'Est. C'est-à-dire le fait de se tailler un continuum géographique qui va complètement privatiser la mer d'Azov en récupérant tout le Donbass, toute la bande côtière, Mariupol qui est stratégique, et avoir un continuum avec la Crimée. En revanche, Kiev et l'idée de pouvoir dominer toute l'Ukraine, c'est-à-dire un pays de 40 millions de résistants aux Russes, c'est totalement impossible. Donc ma conviction, c'est que Kiev est un leurre. Depuis le début, je ne comprends pas la manœuvre militaire de Poutine par rapport à Kiev. Ça n'est cohérent que si Poutine menace du nucléaire et demain, quand il aura véritablement son continuum territorial, il va à la table de négociation et il dit « Bon, écoutez, dans ma grande humanité, je suis prêt à négocier la libération de Kiev qui est encerclée, voire investie dans les faubourgs. » Et même le président Zelensky, qui sera furieux de perdre toute une zone importante économique du sud et du sud-est, finalement, il y aura une sorte de soulagement. Donc, voilà le point de réflexion où j'en suis aujourd'hui, encore une fois, mais c'est de l'analyse.
Et en écho à ce que vient de dire Pierre Servent, la délégation russe se dit prête à reprendre dès ce soir les pourparlers avec l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a dit espérer que la délégation ukrainienne viendra aux négociations sans en préciser le lieu. Après une première séance de pourparlers lundi à la frontière biélorusse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le préalable à toute discussion était l'arrêt des bombardements russes sur les villes ukrainiennes.
À 13h10 sur France Inter, venons-en maintenant à la situation à Kiev, Frédéric Barrère, la capitale ukrainienne toujours dans l'angoisse alors qu'un immense convoi militaire russe est en approche de cette capitale.
Et ce convoi de chars et de véhicules blindés russes qui s'étire sur des dizaines de kilomètres est toujours à l'arrêt, à moins de 30 kilomètres de Kiev. Sur place à Kiev, on retrouve nos envoyés spéciaux Omar Waman et Gilles Gallinaro. Bonjour Omar.
Bonjour Frédéric.
Quelle est la situation à la mi-journée? Un climat d'inquiétude dans la capitale?
Oui, il neige, hein. Il neige en ce moment même sur Kiev où les habitants vivent effectivement au rythme des sirènes qui retentissent régulièrement. Une partie de la population est restée terrée dans les abris souterrains. D'autres, eh bien, sont sortis et font actuellement la queue devant les rares supermarchés encore ouverts pour acheter des produits de première nécessité, alors que certains tentent de fuir la ville tant qu'il est encore temps. Kiev se prépare effectivement à cet assaut des forces russes qui poursuivent leur encerclement.
Alors il faut revenir, Omar, sur la journée d'hier à Kiev. Une lourde frappe russe a visé la tour de télévision, faisant au moins 5 morts selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, entraînant l'interruption des diffusions et des programmes des chaînes. Mais surtout, une frappe, Omar, à côté d'un mémorial de la Shoah et qui a provoqué une très vive émotion.
Oui, car effectivement, cette tour de télévision ciblée se trouve à proximité du mémorial de Babi Yar, où 30 000 juifs ukrainiens ont été assassinés par balle, ce qu'on appelle le génocide par balle. Un peu plus de 30 000 juifs ukrainiens assassinés par les nazis, c'était en 1941. Et ce matin, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a publié une vidéo sur le réseau social Telegram, dans laquelle il accuse la Russie de vouloir effacer l'histoire.
Pour ceux qui connaissent notre histoire et l'histoire du monde, Babi Yar est un lieu de mémoire important en Ukraine, mais aussi en Europe, un lieu de prière. Ces victimes ont été tuées une deuxième fois. Cette tour de télévision a été construite à l'époque du régime de l'Union soviétique, à l'endroit même où ces victimes ont été assassinées, pour effacer ce pan de l'histoire. Ce bombardement prouve qu'ils ne connaissent rien de notre capitale et de notre histoire.
Et selon plusieurs sources, Frédéric, l'armée russe devrait procéder à de nouvelles frappes ciblées à Kiev sur des sites stratégiques et notamment sur les centres de renseignements ukrainiens.
Omar Waman et Gilles Gallinero en direct de Kiev. Merci à vous deux. En Russie, où la communication et le contrôle sur l'information est un enjeu majeur dans cette situation de guerre, deux médias russes indépendants ont été bloqués par les autorités russes. La chaîne de télévision Dojd et la radio Écho de Moscou, principale vitrine du journalisme russe en Russie. Le Kremlin a donc coupé les ondes, reprochant à ces médias d'avoir publié des informations militaires sciemment erronées, des fake news selon Moscou. Sur place à Moscou, Sylvain Tronchet.
La dernière fois que Radio Écho de Moscou a cessé d'émettre, c'était en 1991, à la fin de l'URSS, lors du putsch raté des services de sécurité. Écho Moskvy est une institution en Russie, radio des intellectuels libéraux. Elle était tolérée par le pouvoir. Le groupe pétrolier et gazier Gazprom en était même actionnaire. Mais ces derniers jours, le pouvoir s'est tendu et il est désormais interdit d'utiliser le mot « guerre » dans les médias. La radio continue d'émettre sur le web via YouTube, mais ce matin, son rédacteur en chef, Alexei Venediktov, disait en direct à l'antenne que les ennuis n'étaient peut-être pas terminés.
Il s'avère que le bureau du procureur général a également envoyé une notification à Twitter afin de déconnecter notre compte, avec exactement la même justification que nous diffusons des faits sciemment faux, non vérifiés, etc. Mais là encore, aucun exemple n'est donné. Cela signifie que le bureau du procureur général va essayer de nous faire tourner en bourrique et de nous couper des différents réseaux sociaux, dont YouTube.
Quand on disait à Vladimir Poutine qu'il n'y avait pas de liberté de la presse en Russie, il répondait souvent en prenant l'exemple de la radio Écho de Moscou. Ce n'est aujourd'hui plus possible. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
Ces informations encore en bref. Alexei Navalny, l'opposant russe actuellement en prison, a lancé un appel à des manifestations quotidiennes en Russie contre la guerre en Ukraine. Sachez aussi que l'ONU recense à la mi-journée près de 836 000 réfugiés venus d'Ukraine. Et puis Eurostar offre des billets de train vers le Royaume-Uni aux ressortissants ukrainiens depuis n'importe quelle gare Eurostar vers Londres.
Et clin d'œil ici avec les Ukrainiens de Paris dans cette actualité lourde. Frédéric Barrère, nous venons de voir passer une joggeuse vêtue de jaune et bleu. Vous voyez, tout le monde se met aux couleurs. Il est 13h14. Emmanuel Macron prendra donc la parole ce soir à 20h au 7e jour de la guerre en Ukraine et au moment où l'offensive russe s'est intensifiée.
Oui, conseil de défense ce matin autour du chef de l'État consacré à la guerre en Ukraine avant un conseil des ministres. Sur place à l'Élysée, on retrouve Simon Le Baron. Bonjour Simon.
Bonjour.
Emmanuel Macron avait annoncé qu'il tiendrait les Français informés de la situation et des décisions qu'il serait amené à prendre. Il le fera à 20h ce soir.
Oui, il avait dit qu'il reviendrait vers nous dans les prochaines heures. Jeudi dernier, il aura donc attendu 6 jours, le temps d'y voir un peu plus clair, explique un proche, sur l'évolution de la situation. Vladimir Poutine, plus que jamais dans une logique agressive, Emmanuel Macron veut donc montrer qu'il agit pour protéger les Français des conséquences de la guerre. Conséquences sur notre sécurité, bien sûr, mais aussi sur notre pouvoir d'achat. Elles dureront longtemps, vient d'ailleurs de prévenir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le président va aussi évoquer les sanctions contre la Russie, le soutien à l'Ukraine, l'assistance aux Français sur place et la nécessité de poursuivre la voie diplomatique, y compris avec Poutine. Le ton était grave, sombre ce matin, nous confie un ministre. Il le sera aussi ce soir. Allocution consacrée à 100% à la guerre sur l'Élysée. Pas de mélange des genres. Emmanuel Macron va officialiser sa candidature d'ici vendredi, mais certainement pas ce soir.
Matinée de conseil ce matin, Simon Le Baron à l'Élysée, conseil de défense, on en a parlé, conseil des ministres, mais aussi conseil de défense sanitaire.
Et sur le plan sanitaire, oui, 2 décisions ont été prises, nous confie un conseiller. D'abord, le calendrier de levée du pass vaccinal. Le gouvernement avait évoqué la mi-mars. Et puis, la date de levée du masque au travail, dans les transports et dans les écoles. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui devrait annoncer ces mesures. Dans ce contexte de péril international et d'enjeu préélectoral, l'exécutif ne peut pas se priver aussi de bonnes nouvelles.
Simon Le Baron, avec Christophe Papon, en direct de l'Élysée. J'ajoute, en lien avec notre journée spéciale avec les Ukrainiens et votre plateau, Bruno, avec les scouts ukrainiens et les joggeuses qui passent en bleu et jaune, que vous pouvez retrouver sur notre site franceinter.fr, une liste des moyens pour soutenir les Ukrainiens, accueil de réfugiés, dons de vêtements, d'argent, comment aider les Ukrainiens depuis la France, c'est sur franceinter.fr. La Russie doit faire face à des sanctions économiques lourdes depuis son intervention militaire en Ukraine. Et parmi elles, beaucoup concernent la banque centrale russe, dont une grande partie du trésor de guerre, qui peut lui permettre de résister économiquement et de financer le conflit en cours, est placée à l'étranger et donc inutilisable pour l'essentiel. L'Union européenne vient aussi de prendre de nouvelles sanctions pour exclure certaines banques russes du réseau SWIFT. Et de son côté, Sberbank, l'une des plus grandes banques russes, a annoncé qu'elle se retire totalement du marché européen. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Alors ce réseau SWIFT dont on parle beaucoup, c'est un rouage clé de la finance internationale.
Oui, c'est le système de messagerie instantanée par lequel passent tous les ordres de transactions sécurisées, transmissions et archivage. SWIFT permet aussi de retracer les transferts de fonds lorsqu'il y a des enquêtes. C'est SWIFT qui héberge notamment les codes de BIC, vous savez, ces séries de lettres qui apparaissent sur votre relevé d'identité bancaire, qui servent à identifier les banques du monde entier. Sans SWIFT, pas de transaction avec l'étranger. Il y aura donc 7 banques russes exclues de SWIFT. L'Union européenne vient tout juste de l'annoncer. Cela peut sembler peu au regard des 300 banques et institutions russes qui utilisent SWIFT aujourd'hui. L'UE dit avoir voulu épargner les paiements de gaz et de pétrole par cette mesure d'exclusion, souvent présentée comme une arme atomique financière. Elle avait déjà été envisagée en 2014 après l'annexion de la Crimée, ce qui avait poussé la Banque centrale russe à travailler à la création de son propre système alternatif à SWIFT, baptisé SPFS, connecté notamment aux banques chinoises et iraniennes qui voient elles aussi un moyen de se prémunir contre d'éventuelles futures sanctions occidentales.
Fabien Cazot, merci. Dans ce contexte de guerre en Ukraine, la campagne pour l'élection présidentielle reprend, notamment pour Marine Le Pen aujourd'hui en visite au Salon de l'agriculture. En revanche, la campagne s'arrête pour Christiane Taubira en manque de parrainage. L'ancienne garde des Sceaux abandonne. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Malgré l'euphorie de la victoire à la primaire populaire, Christiane Taubira met fin à sa campagne.
Oui, un mois plus tard, tout juste un mois plus tard, clap de fin, sans parti politique, sans salarié de campagne et dans la précipitation, la course au parrainage lui a été fatale.
Je m'adresse à vous aujourd'hui pour mettre un terme à un inutile suspense. Il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages.
Elle n'en a que 180 à 3 jours de la date limite, mais espère que son échec servira de leçon.
Je suis persuadée que ce dispositif administratif vit ses dernières heures. Je pense que cette campagne lui sera fatale et c'est une bonne nouvelle.
Christiane Taubira plaide pour des parrainages citoyens et accuse les partis politiques, sans les citer, le PS, le PC, EELV, d'avoir bloqué sa candidature.
Des partis qui n'en finissent pas d'agonir, des partis qui sont boudés par leurs propres militants, qui sont délaissés par leur électorat. Il ne reste plus aujourd'hui que leur capacité de nuisance et que cette capacité de nuisance est actuellement leur principale occupation.
Elle ne va donc rejoindre aucune équipe de campagne demain, pas de ralliement, pas de négociation, mais dans quelques jours, Christiane Taubira promet de dire pour qui elle votera au premier tour.
Maxence Lambrecq avec Benjamin Thuot. Et puis à noter ce matin, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, a annoncé soutenir Emmanuel Macron dans la course à l'Élysée. « Je souhaite sa candidature et je le soutiendrai », a déclaré Jean-Pierre Raffarin. La date limite pour se déclarer est fixée à après-demain, vendredi 18h. La question des EHPAD maintenant, avec aujourd'hui la remise de deux rapports ou missions d'information dans le but est d'améliorer les EHPAD en général. Au début de la semaine, la Cour des comptes a préconisé au moins 1,3 milliard d'euros en plus pour améliorer les soins. Et l'une des deux missions s'est penchée sur cette question. Quels EHPAD pour demain, Anne Orenshine ?
Eh bien, pour l'EHPAD de demain, ce n'est pas une réforme qui est nécessaire, c'est une révolution culturelle même, dans laquelle toute la société se pose la question de son rapport au grand âge. Car selon les rapporteurs, l'important, c'est que l'EHPAD doit être un lieu de vie et pas seulement un lieu de soins. L'une d'elles prend un exemple. Au lieu de compter le nombre de protections, le nombre de couches et de l'augmenter, il faut avoir le temps d'accompagner les personnes aux toilettes. Le but, c'est de conserver leur autonomie et leur dignité le plus longtemps possible. La mission imagine aussi d'ouvrir les établissements, d'y installer des tiers-lieux, une crèche, une cantine scolaire. Elle voit également l'EHPAD de demain comme un centre de ressources pour favoriser le maintien à domicile, un endroit où les personnes âgées viendraient seulement dormir ou rencontrer leur gériatre ou leur orthophoniste. Mais pour cela, il faut de l'argent. La mission prône donc la création d'un poste de recette dédié au grand âge, peut-être une nouvelle taxe. A priori, ça ne fait pas partie des propositions que devrait très prochainement annoncer la ministre.
Nous en venons à la chronique cinéma ce mercredi avec une grosse machine sur les écrans de Batman, mais aussi le bouleversant Belfast de Kenneth Branagh. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
L'actualité des sorties cette semaine, c'est aussi un Gérard Depardieu qui n'a eu de cesse au fil des années de vanter Poutine et la Russie comme une grande démocratie. Il a appelé hier à arrêter les armes et négocier. Et aujourd'hui, Gérard Depardieu est omniprésent sur les écrans.
Oui, après la comédie Maison de retraite, Le Maigret de Patrice Lecomte, il est à l'affiche de Robuste de Constance Meyer, l'histoire d'une rencontre entre deux mondes que tout oppose. D'un côté, Georges, acteur vieillissant, revenu de tout terriblement seul. De l'autre, la jeune Aïssa, qui devient son chauffeur et son agent de protection rapproché.
Personne ne vous oblige à rester.
Personne ne m'oblige, mais moi j'aime faire mon travail, le faire bien.
Moi non. J'aime faire chier, moi.
Un premier long métrage très maîtrisé et un portrait au cordeau de Gérard Depardieu, dont le personnage Georges est très proche de l'acteur, ogresque, excessif, robuste, mais aussi sensible et fragile.
Parfois j'aimerais être mort. qu'on pousse la paix.
Face à lui, Aïssa, incarnée par Deborah Lukumuena, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Divine en 2017. Aïssa très généreuse, appliquée, maternante et robuste, elle aussi, à sa manière. Entre les deux se tisse un lien très tendre, tout en nuances.
C'est des poissons qui viennent des abysses.
Je m'y connais pas trop en poissons.
Vous les trouvez moches ?
Un peu difforme.
Un peu difforme, mais beau quand même.
Un duo très juste et une mise en scène organique dans la manière qu'a Constance Meyer de filmer les corps imposants de ces deux personnages qui se révèlent chacun dans le regard de l'autre.
Et puis une autre manière de filmer les corps dans « Viens, je t'emmène », le nouveau film d'Alain Guibaudy.
Après l'inconnu du lac écrasé de soleil, le réalisateur nous emmène cette fois dans la grisaille de Clermont-Ferrand.
Ça vous dirait pas qu'on aille boire un café ou autre chose ?
On peut aller plus vite que ça ?
Ah non, mais moi je voudrais vous draguer normalement. Fasse ça gratuit.
Pourquoi faudrait que je le fasse gratuit avec toi ?
Parce que je suis contre la prostitution.
Mais l'Éric, trentenaire banal, tombe amoureux d'Isadora, une prostituée de 20 ans, son aînée. Amour contrarié par un attentat, un sans-abri et par un mari jaloux. Les ressorts du vaudeville pour évoquer des thèmes de société très actuels.
Je pense à ce jeune gars qui s'est fait exploser. Et aux autres aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'ils en arrivent là ?
Je veux pas les plaindre non plus.
Des jeunes qui s'en foutent à ce point de la vie de la leur ou de celle des autres, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir.
Porté par ses acteurs, Noé Milowski, Jean-Charles Cliché en tête, le film est un ovni avec toute la gourmandise d'Alain Guiraudy pour le mélange des genres. La comédie, le film noir, la chronique sociale, un grand foutoir qui parfois nous égare. Mais l'ensemble est maîtrisé, les dialogues ciselés et chaque virgule est à sa place.
Sébastien Sabiron, et on vous retrouve Bruno pour ce 13-14 spécial avec les Ukrainiens.
Merci Frédéric Barrère, c'était donc votre journal et dans un instant la météo.
Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid-19 pour se protéger et protéger les autres. Les enfants peuvent se faire vacciner en centre de vaccination ou chez un médecin, un pédiatre, un pharmacien, un infirmier ou une sage-femme. N'attendez pas pour vous renseigner. Vous pouvez prendre rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Sébastien Léas, quelle est la tendance du jour ?
Eh bien, il y a des nuages à tous les étages, hein, entre le Grand Est, les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Bourgogne-Franche-Comté et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sont d'ailleurs des nuages des étages moyens et élevés qui recouvrent le ciel, ce qui donne une teinte blanchâtre et laisse parfois une impression lumineuse, malgré l'absence de coins de ciel bleu. La couche nuageuse est plus épaisse et plus grise sur la Normandie, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Sur le Languedoc-Roussillon, les nuages bas lâchent quelques pluies. Les pluies sont d'ailleurs plus régulières entre Midi-Pyrénées et le Limousin, voire le Berry, à cause d'une perturbation. La façade ouest passera à l'arrière de cette perturbation. Quelques éclaircies se dessineront cet après-midi. Des averses se développeront essentiellement au sud de la Loire, mais avec quand même quelques coups de tonnerre possibles le long des Pyrénées. Et puis pour finir, un mot de la Corse, puisqu'il a fait très froid. La nuit dernière, la station de Figari a même établi un nouveau record de froid pour un mois de mars, avec moins 6,1 degrés. Pour cet après-midi, la Corse aura un après-midi bien ensoleillé. Et puis les températures étaient très contrastées cette nuit. Elles vont devenir plus homogènes cet après-midi, variant entre 8 et 15 degrés. Il fera par exemple la même température que vous soyez à Bastia, à Sète, à Cahors, à Angoulême, à Nantes, à Caen, à Dijon, à Paris ou encore à Reims, à savoir 12 degrés.
Merci Sébastien Léas. Il est 13h27 sur France Inter. France Inter avec les Ukrainiens. C'est une journée spéciale.
France Inter. Bruno Duvic. Édition spéciale.
Et le 13-14 est rue de Palestine, 19e arrondissement de Paris, point de passage bien connu de la communauté ukrainienne de la capitale. Deux petits immeubles de 3 étages, les couleurs du drapeau ukrainien sur la façade, des bureaux, des logements, une bibliothèque et 2 endroits particulièrement emblématiques, l'église ukrainienne orthodoxe Saint-Simon et le local des scouts ukrainiens. Et ce bruit de scotch et de carton qui se referme, car depuis la semaine dernière, les scouts ont lancé un appel aux dons pour l'Ukraine. Et c'est une ruche, ce local de scouts, depuis quelques jours. Bonjour Alenka Bondar.
Oui, bonjour.
Vous êtes la trésorière de Plast Scout d'Ukraine. Vous avez lancé un appel à l'aide dès le deuxième jour de guerre.
Oui, en fait, on a lancé l'appel vendredi après-midi. Et déjà samedi matin, on a ouvert cet entrepôt et aussi d'autres entrepôts ici à Paris, en Ile-de-France. France. Et en fait, on était vraiment impressionnés par la quantité de gens qui voulaient nous aider. Et oui, donc on travaille, ça fait déjà 5e jour, je crois, qu'on travaille jour et nuit.
Et, jour et nuit.
Au jour et nuit, oui, parce que pendant la journée, on est là. Et pendant la nuit, on essaye de répondre aux plusieurs, je ne sais pas, 100 ans, ou même 1000 messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, sur différents, des appels, des SMS.
Alors là, ce local, c'est un amas de cartons. Il y a tous les produits qu'on peut imaginer, produits d'hygiène, produits d'alimentation, produits médicaux. Et à nos côtés, il y a également Yulia Pavlenko. Bonjour, Yulia.
Oui, bonjour.
Vous êtes arrivée hier, vous aviez envie de donner de votre temps. Vous êtes ukrainienne vous-même.
Oui, effectivement, je ne fais pas partie de l'association ukrainienne, mais toute ma famille est en Ukraine. Mes parents sont à Kiev, mes grands-parents sont à Tchernigov. Mon frère, il est militaire dans le front de l'Est. Et du coup, je voulais aider, donc j'ai écrit à toutes les associations, tous les numéros que j'ai trouvés. Ils m'ont répondu ici et j'ai pris les vacances au travail. Je compte aider autant que je peux.
Parce que vous travaillez par ailleurs, donc effectivement, vous prenez vraiment sur votre temps, y compris professionnel. D'abord, quels échos l'une et l'autre avez-vous de vos proches? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que vous arrivez à les joindre? Comment ça se passe? Yulia, d'abord.
Pour l'instant, j'ai le lien avec tout le monde. Il y a juste mes grands-parents qui n'ont plus d'Internet, mais ils avaient une vieille connexion par câble. Tout le reste, ils ont le réseau, mais effectivement, ils ont peur. Et en même temps, ils sont prêts à battre jusqu'au bout. Par exemple, mes parents à Kiev disent qu'ils vont, s'il faut, ils vont mourir, mais ils ne vont pas laisser prendre Kiev. Donc tout le monde aussi dans cet état de bataille jusqu'à dernière souffle.
Olenka, vous dites l'aide, c'est pour les Ukrainiens, mais en priorité pour ceux qui se battent.
Oui, c'est ça. En fait, on travaille plutôt pour collecter vraiment les matériaux pour les, pas aussi pour les soldats, mais aussi pour les civils qui sont dans la protection territoriale de leur ville.
Et ça veut dire qu'ils ont besoin de quoi?
Ils ont besoin en fait d'équipements de protection dans ce sens-là, que par exemple les sacs de couchage, les gants, les chaussettes, les chaussures, le sous-vêtement thermique. Aussi les trousses de sécurité de bonne qualité, en fait, les trousses de secours de l'OTAN.
Oui.
Aussi les thermos, les
casques. Les casques.
Ouais. Ça, on ne s'occupe pas de ça.
Okay.
Ouais. Et donc, tout ça, en fait, pour les civils qui n'ont pas, en fait, l'accès à tout ça parce qu'ils ne sont pas les militaires officiels.
Et comment on achemine? Comment on achemine cette aide?
Oui, on a des camionnettes et des camions qui partent tous les jours, en fait, même
tous les
plusieurs,
jours.
Oui.
Ils plusieurs. Viennent d'où, ces camionnettes, ces camions?
Ce sont des camionnettes des Ukrainiens qui, normalement, quand il n'y a pas de guerre, qui font des services de transport entre l'Ukraine et la France, et qui partent une fois par semaine, normalement, mais maintenant, à ce temps-là, ils partent tout le temps, en fait. Donc, ils font des allers-retours tout le temps.
Et on a vu même deux jeunes filles passer ce matin avec une petite Peugeot 207 pleine à craquer de carton. On a vu Ivan passer également pour débrasser des cartons tout à l'heure. Est-ce que vous savez précisément quel chemin ils suivent? Est-ce qu'on passe facilement?
Oui, en fait, nos camionnettes, normalement, presque toutes les camionnettes, ils vont en Pologne, à la frontière polonaise. Il y a des entrepôts qui sont organisés soit par les scouts, soit par d'autres organisations ukrainiennes et aussi polonaises.
Ouais.
Et après, de ces entrepôts, il y a d'autres transports qui peuvent traverser la frontière. Et soit ils se rencontrent à la frontière.
Et ensuite, pour avancer dans le pays, c'est ultra compliqué. On reste à l'ouest. Comment ça se passe?
C'est un peu compliqué. Bien sûr qu'en l'ouest de l'Ukraine, c'est plus facile. Il y a des entrepôts à l'est de l'Ukraine où les gens réceptionnent toutes ces aides humanitaires qu'on envoie. Et après, ils envoient dans les endroits où c'est le plus nécessaire. Mmh. Mais bien sûr qu'il y a vraiment, même Kiev ou Tchernigiv maintenant, c'est vraiment très difficile d'accéder. Donc seulement les camions militaires qui peuvent accéder. Et on s'organise, nous nous organisons et on a des contacts dans plusieurs villes et on essaye de faire en fait cet acheminement.
Les contacts, c'est quoi? C'est le réseau des scouts?
Ce sont des scouts et aussi d'autres militaires, oui.
Qu'est-ce que vous faites là depuis tout à l'heure, Yulia? On entend ce bruit de scotch qui est très impressionnant et de paquets qu'on déballe ou qu'on remballe. Vous faites quoi là depuis ce matin concrètement?
On reçoit beaucoup de dons et on fait le tri par catégorie, les médicaments à part, la nourriture bébé-enfant, hygiène femme-enfant à part. Et après, une fois carton rempli, on l'emballe, on signe
et on le range pour que ça soit envoyé au plus vite en Ukraine.
Des dons financiers y compris, c'est possible, Olenka ?
Oui, c'est possible. On a créé en fait le lien sur le site Hello Asso, c'est le site connu ici en France. Vous pouvez trouver, si vous tapez dans la recherche Plast Scout, vous allez trouver notre page et là l'appel aux dons financiers. Mmh. Et en fait, c'est pour ça, parce que nous envisageons en fait de faire les gros achats de tous ces matériaux, comme on disait, par exemple les chaussures, les chaussettes, les gants, le sous-vêtement thermique, les trousses de secours, pour qu'on puisse organiser l'achat organisé, ouais. En fait, et vraiment les grosses fournitures de ça. Parce que on apprécie vraiment tout ce que les gens nous apportent, mais aussi on veut faire un peu plus et vraiment d'acheter les modèles de certaines choses qui sont approuvées, on peut dire, et vérifiées avec nos amis ukrainiens.
Et vous vous coordonnez avec d'autres associations. Il y a une autre association qui est au troisième étage, qui elle collecte des vêtements. Vous coordonnez avec les autres?
Oui,
parce que tout ça est plein d'initiatives, mais j'imagine que ça part un peu dans tous les sens et que ça doit être compliqué de...
Oui, l'association qui est ici au troisième étage, c'est l'association L'Ukraine pour tous. Ouais. Et oui, ils ramassaient et accueillaient les vêtements. Pour l'instant, c'est ce que j'ai entendu, ils ont arrêté de prendre ça, pour l'instant, parce qu'ils sont en train d'organiser comment envoyer tout ça dans un entrepôt. Et vraiment, ils sont en train de prendre les contacts avec les réfugiés qui sont déjà en France.
Julia, vous allez pouvoir mettre le travail entre parenthèses. Combien de temps ?
Je sais pas, j'ai pris 3 jours pour l'instant. S'il faut, je pourrais prendre la semaine prochaine. Et voilà, on va voir. Dans tous les cas, j'arrive pas à me concentrer sur mon travail, donc je préfère d'être ici et utile.
Est-ce que vous avez le moral ? Vous avez toutes les deux une énergie et même le sourire. Est-ce que vous tenez même dans le contexte actuel ?
On tient. Après, c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qui sont là-bas. Donc, on se sent, je pense, mieux aussi d'être ici, essayer d'aider que juste être à la maison inutile et vérifier les messages en continu, avoir peur en continu. Au moins, on fait quelque chose.
Olenka, je peux voir votre téléphone portable? Elle cherche dans ses poches. Ah non, vous l'avez posé quelque part. C'était juste pour dire que je pense que c'est le téléphone le plus assailli de tout Paris. Vous avez passé la matinée dessus. Combien de messages en attente, là ?
En attente, c'est 189. Mais il y a plein que j'ai ouvert, mais pas encore répondu.
OK.
Et donc, il y a plein d'appels que je reçois tout le temps et c'est énorme.
189 messages en attente. Merci beaucoup.
C'est seulement des SMS. Je ne compte pas les réseaux sociaux comme Messenger, WhatsApp et d'autres applications.
C'est bien noté. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Tiens, message de service pour la mairie du 19e arrondissement. Comme il y a beaucoup d'activités, il y avait des cartons qui s'étaient accumulés devant. Il y a une bonne âme qui a signalé cela et l'association a pris une amende. Donc, si la mairie pouvait envoyer régulièrement un camion pour débarrasser les cartons, ce serait assez bon esprit. Allez, je rejoins nos deux autres invités dans la petite camionnette technique de France Inter qui est installée juste devant. Philippe Testa et Christina Biletska. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Philippe Testa pour la Croix-Rouge, pardon. Le temps que je m'installe dans cette camionnette technique et que je prenne le second micro. Non, je vais vous poser une première question avec ce micro, Philippe Testa. Tout simplement, quels échos, vous, de la Croix-Rouge, avez-vous de ce conflit ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors tout d'abord, il faut savoir que les actions qui sont menées par la Croix-Rouge sont coordonnées à partir de Genève, c'est-à-dire que nous sommes en lien direct avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et avec le Comité international de la Croix-Rouge. Oui. Donc le Comité international de la Croix-Rouge qui s'occupe de toutes les problématiques liées à vos zones de guerre et la Fédération qui s'occupe plutôt du soutien aux populations et de l'accueil des réfugiés.
Voilà. Donc il y a le réseau Croix-Rouge.
Le réseau, ouais, exactement.
Le mouvement. Efficace et présent. Est-ce que l'aide humanitaire est particulièrement compliquée ou est-ce qu'elle est possible à organiser avec ce réseau, vous qui avez l'habitude de ces interventions?
Alors elle est possible à organiser, il faut juste s'organiser pour le coup.
Ouais.
Simplement parce que la situation est mouvante. On n'est pas sur une situation de catastrophe, comme souvent on la voit, où une fois que la catastrophe est terminée, on peut agir et agir massivement. Là, on a une situation qui est complètement évolutive, avec des besoins qui évoluent. Donc, nous sommes en contact au travers des organes internationaux de la Croix-Rouge avec les sociétés nationales, c'est-à-dire les Croix-Rouges de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, de Tchéquie, etc.
Parce qu'il y a ça aussi dans l'opération actuelle, il y a l'Ukraine et puis les pays limitrophes.
Exactement, ouais. Et ces Croix-Rouges-là nous remontent l'ensemble des besoins.
Et quels sont les besoins ?
Les besoins sont des besoins actuellement sur des lots de secours, sur du matériel d'hébergement, du matériel lié à l'hygiène, à la vie courante, ce qu'on appelle nous de la relief, hein, c'est-à-dire de distribuer des fourchettes, des couteaux, enfin de faire que les gens puissent avoir une vie. Voilà. Et on a une liste très précise de matériel. Et en fait, on a lancé un appel à dons simplement parce que il est plus facile de récolter des dons numéraires et ensuite d'acheter du matériel pour pouvoir le transmettre. Parce que d'abord c'est notre façon de faire, c'est notre
logistique. Donc si on veut aider, pour le dire très simplement, plutôt de l'argent et ensuite vous vous occupez d'acheter ce
exactement,
qu'il faut.
Exactement.
Okay. Christina Biletska, vous êtes secrétaire de l'association Aide Médicale France-Ukraine. Un mot d'abord de cette association parce qu'elle a une histoire qui raconte l'histoire récente de l'Ukraine.
Oui, notre association a été créée en 2014 lors des événements sur Maïdan, oui, où la révolution de la dignité a éclaté pour faire donc fuir le président, qui a fait fuir finalement le président Yanukovych.
Pro-russe.
Pro-russe, merci. Oui. Et donc nous sommes organisés ici avec une cinquantaine de bénévoles pour au début accueillir des blessés sur Maïdan. C'était des personnes qui ont eu des blessures oculaires pour les faire soigner ici. Et ensuite, nous avons développé un projet AMC humain, humanitaire, qui consiste à rééquiper les hôpitaux le long de la ligne de front en Ukraine, je dirais ancienne maintenant, ligne de front, oui, et d'autres
donc
hôpitaux.
Celle de l'Est.
Voilà,
ouais.
Et aussi un hôpital militaire à Kiev, ouais, ou d'autres hôpitaux.
Donc vous, c'est de l'aide médicale lourde dont vous vous occupez.
C'est ça. Depuis 2014, depuis 8 ans, nous avons envoyé plus de 1000 tonnes de matériel médical. Ce sont des lits médicalisés électriques, des couveuses, des lampes pour les blocs opératoires, des matériels pour les dentistes, donc du matériel un peu plus spécialisé comme pour faire des radios, etc.
Et donc là aussi, si on veut vous aider, c'est plutôt des aides financières et ensuite charge à vous d'acheter le matériel médical précis dont les gens ont besoin sur place.
Exactement. Nous avons développé un réseau de contacts avec les médecins et les hôpitaux en Ukraine qui nous font remonter aujourd'hui leurs besoins. Mmh. Et nous avons donc constitué une liste qui se trouve sur la page de notre association, ouais, amc.ukr.fr, où vous pouvez trouver donc la liste du matériel médical de premier secours et vous pouvez voir les quantités qui sont impressionnantes en fait, dont on a besoin pour distribuer à nos partenaires.
Philippe Testa, adjoint aux opérations en Ukraine pour la Croix-Rouge, il y a eu une mobilisation générale dans le pays, donc il y a beaucoup de femmes et d'enfants isolés. Est-ce que ça nécessite une action particulière? Comment ça se passe?
Oui, alors en ce qui concerne les personnes qui potentiellement sont réfugiées en France,
oui,
la coordination avec les services de l'État est en train de se mettre en place. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a un call avec les ministères là, à 16h sur le sujet. Donc on est en train de préparer les choses. Là aussi, c'est une action malheureusement dont nous avons l'habitude. La seule différence par rapport à ce qu'on a l'habitude de gérer, ça va être la volumétrie, de savoir combien de personnes il va falloir accueillir, les femmes, les enfants, scolariser les enfants, enfin faire que tous ces gens-là, une fois qu'ils seront mis à l'abri, puissent en tous les cas avoir une vie décente.
Ça c'est pour ceux en France et en Ukraine, femmes et enfants isolés, il doit y en avoir aussi. Ah. Est-ce que vous arrivez à accéder à eux? Est-ce que vous arrivez à accéder aux villes où la bataille est la plus rude en ce moment, Kharkiv, Kherson, ces zones-là, est-ce que vous y accédez? Et je poserai la question également à Christina.
Alors la Croix-Rouge ukrainienne est très active, oui, sur le terrain. Elle participe à l'ensemble des missions qui sont celles de la Croix-Rouge de façon usuelle. Et on a même un lien, en fait. Il y a un lien de par la Fédération, il y a un lien, et le CICR, il y a un lien entre l'ensemble des sociétés nationales dont je vous ai parlé, oui, la Croix-Rouge ukrainienne et même la Croix-Rouge russe qui participe comme elle peut en tous les cas, qui participe à venir à soutenir les autres sociétés nationales. Donc on a la possibilité, en tout cas, d'avoir accès à l'ensemble de, ouais, la population.
Ce que vous nous dites, c'est que au 7e jour de guerre, au fond, pour une grosse organisation comme la Croix-Rouge, c'est une opération humanitaire qui est gérable. On peut aller aider les gens. Autant il y a des situations où on dit on a du mal à accéder, là on peut aider les gens.
Pour l'instant.
Christina Biletska, même remarque, par où passe l'aide? Comment ce qui peut partir éventuellement d'ici arrive en Ukraine? Est-ce que ça passe encore? Est-ce que c'est de plus en plus difficile? Et est-ce que vous arrivez à accéder aux zones les plus compliquées?
Depuis le début de la nouvelle phase de guerre, depuis 7 jours, donc nous n'avons pas encore envoyé de convoi humanitaire. Nous avons développé donc une stratégie. Nous avons ici des contacts des transporteurs qui vont acheminer les camions semi-remorques, donc vont acheminer de l'aide jusqu'à les entrepôts en Pologne.
Il y en a un qui part bientôt là.
Il y en a un qui va partir samedi ou dimanche. Voilà. Et ensuite, ce sont nos transporteurs habituels ukrainiens qui vont récupérer ce chargement en fait à la frontière polonaise.
Un mot, est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches? Est-ce qu'ils vont bien? Où est-ce qu'ils se trouvent?
J'ai une famille qui est très dispersée dans plusieurs villes, à Donetsk depuis 8 ans occupée, où c'est le plus calme en ce moment.
Paradoxalement.
Voilà. Ouais. J'ai de la famille qui est dans les caves à Kiev, des amis à Zaporijjia, à Ivano-Frankivsk, de la famille à Lviv, où c'est encore une fois un petit peu plus calme, mais on est très inquiet, on est en contact tous les jours.
Vous arrivez à avoir des contacts?
Oui, bien sûr.
Mais est-ce qu'ils cherchent à venir en France ou à quitter l'Ukraine? Est-ce qu'ils veulent rester? Est-ce que les hommes sont au combat?
Paradoxalement, les gens veulent, de ma famille, ils veulent rester. Ils disent, c'est notre terre, c'est notre pays, nous sommes nés ici, nous ne pouvons pas fuir, on doit absolument rester ici pour protéger notre territoire et pour le garder.
Philippe Testa, dernière question. On voit la floraison de solidarité, les mouvements, les propositions dans tous les sens. On a vu ici beaucoup de particuliers passer ce matin. Est-ce qu'il y a le risque d'une aide qui part dans tous les sens, qui soit en désordre? Vous qui, avec une organisation comme la Croix-Rouge, avez l'habitude de ça. Comment on évite qu'au fond, il y ait une déperdition d'énergie?
Ben, ça, c'est un risque.
D'une partie de l'aide.
C'est indubitablement un risque. Je pense que la coordination de l'ensemble de l'aide devrait pouvoir limiter en fait la
qui
perte.
Coordonne?
Bah, nous, pour bon, j'ai déjà expliqué, nous on a un réseau, donc voilà. Ensuite, je pense que il y a l'ambassade d'Ukraine, il y a le ministère peut-être des Affaires étrangères, il y a des choses, il y a des instances qui actuellement s'occupent de devoir organiser leur coordination.
Vous êtes en contact avec ambassade, ministère, Christina? Oui.
Ouais. Donc moi, je pense juste que comme je disais tout à l'heure, la grosse difficulté, ça va être la temporalité de l'événement et savoir que si ça dure et si on finit par avoir 5, 6, 7 millions de personnes à gérer, de toute façon, on finira par avoir besoin des aides. Et donc la coordination qui est en train de se mettre en place, en tous les cas, va pouvoir sûrement absorber une partie de l'aide largement.
Merci à tous les deux d'être passés ici dans cette rue de Palestine, 19e arrondissement, qui est un des cœurs battants de la communauté ukrainienne à Paris. Si on veut faire des dons, évidemment, le site de la Croix-Rouge. Et en ce qui vous concerne, Christina, c'est amc.ukr.fr. Voilà, parmi les gens qu'on a vu passer, pour vous dire que c'est vraiment une histoire de quartier, on a vu passer ce matin une dame qui était à l'église catholique juste à côté, et le prêtre catholique incitait à venir donner ici rue de Palestine, et elle passait, elle se renseignait et elle passait distribuer de l'aide. 13h46 sur France Inter, avant de recevoir notre prochaine invitée, un nouveau témoignage qui illustre cette fois la solidarité sur les réseaux sociaux. C'est celui de Caroline Andréoni. Elle est architecte d'intérieur, elle a 7 employés et elle travaille notamment avec un entrepreneur ukrainien. 86 000 personnes la suivent sur Instagram. Elle a proposé à ses followers de centraliser des dons et depuis, ses locaux se remplissent de colis. Elle a mis son activité professionnelle de côté, comme Yulia qu'on entendait tout à l'heure pour quelques temps. Thibaut Cavaillet s'est passé dans ses locaux dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un peu la folie.
Bonjour, on vient pour livrer des colis pour l'Ukraine.
Oui, juste
mes amis. Merci, vous pouvez ouvrir. Merci. On arrive au showroom.
Bonjour.
Des vêtements, en revanche, ben, tout est propre, c'est pas troué, c'est pas taché. Et puis il y a des vêtements chauds, des manteaux, et de 12 à 14 ans.
Oui, au 8e étage. À tout de suite.
C'est la fin de la journée, du coup les gens vont arriver en masse. C'était absolument pas prévu.
Je pensais pas. Merci beaucoup.
Bravo, en tout cas, pour ce que vous faites.
C'était pas du tout prévu, mais je suis en contact, moi, avec mon entrepreneur depuis que ça a commencé il y a 4 jours.
Il est là-bas, lui ou...
Lui, il est là-bas. Et quand, il me raconte ce qui se passe là-bas, il me dit « je peux pas t'expliquer, c'est indescriptible », les horreurs qu'il voit. Et moi, je me suis dit « mais nous, on est là, on est totalement impuissants. » Et moi, je le connais depuis 8 ans et je me dis « c'est pas possible, je peux pas rien faire ». Et j'ai la chance d'avoir une communauté Instagram mais très engagée et je me suis dit « il faut absolument que je m'en serve ».
Donc en moins de 24 heures, votre showroom d'architecte d'intérieur est devenu un lieu de stockage. Vous montrez ?
Exactement, ouais, je vous montre.
Ah oui.
Donc ici, normalement, c'est notre petit salon.
Donc c'est une pièce, on va dire, de 12 mètres carrés.
12 mètres carrés, exactement. Ouais. Et donc là, on a poussé un peu les meubles et puis on a commencé à organiser tous les vêtements dans le fond. On a reçu ce matin un camion entier d'Amazon, rien que pour nous. Donc il y avait 84 colis que l'on a déjà triés par catégorie. Tout ce qui est un peu hygiène, couche. On a même un monsieur tout à l'heure au téléphone qui m'a demandé s'il pouvait apporter des croquettes pour chien, parce que ça lui tient à cœur de la cause animale. Donc on lui a dit bien, oui, bien sûr.
Oui. Merci beaucoup, beaucoup.
C'est une logistique que on s'organise, je dirais, sur le tas. Enfin, c'est vraiment, on improvise, quoi.
Là, c'est une amie qui m'a demandé de récupérer ça, donc je ne sais pas ce que c'est.
Okay.
Et j'en ai un autre en bas.
On va trier, de toute façon.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Ok. Ben, on vous laisse la porte ouverte.
Ouais.
Voilà pour ce témoignage ici dans le studio improvisé de France Inter, 19e arrondissement de Paris, rue de Palestine, avec les Ukrainiens de Paris. Nous voulions parler aussi de la question de l'hébergement et du logement des réfugiés qui commencent à arriver. Nous a rejoint Delphine Rouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de France Terre d'Asile. 700 000 Ukrainiens ont quitté leur pays. Philippe Testa de la Croix-Rouge nous le disait, à terme on redoute des millions de personnes, l'exil de millions de personnes. Pour l'instant en France, très peu de personnes sont arrivées, on parle de quelques dizaines.
Ah oui, tout à fait. Pour l'instant, en fait, on est surtout en train d'anticiper et de s'organiser pour voir comment l'accueil pourrait bien se passer. Mais les personnes arrivent de manière très, 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 très limitée.
Alors, on voit fleurir des initiatives de collectivités locales, de particuliers qui disent « moi, je peux loger ». Vous, France Terre d'Asile, à ce stade, quel est votre rôle ?
Notre rôle, il est modeste à ce stade, mais justement parce que tout l'objectif, c'est de penser la coordination. Donc il y a deux enjeux importants en premier lieu. C'est d'abord de penser l'accueil d'urgence des personnes qui arrivent par leurs propres moyens, effectivement, qui passent la frontière polonaise et qui soit sont récupérés par des proches qui viennent les chercher, qui les ramènent en France, soit prennent des trains, des avions. Et donc il faut penser la manière dont ces personnes, quand elles arrivent et qu'elles sont complètement démunies, vont pouvoir être hébergées, accompagnées. Donc on est en train de réfléchir aujourd'hui avec les collectivités, les services de l'État, la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés, tous ces acteurs-là, on est en train de penser la bonne manière de prendre en charge les gens, de s'assurer qu'ils bénéficient de tous les droits auxquels ils auront droit, et évidemment d'un hébergement, puisque c'est la première chose dont ils auront besoin.
Hébergement d'urgence, il y a des places disponibles ?
Oui, il y a des places disponibles et il y en aura. Enfin, je pense que là, le gouvernement français a été extrêmement clair là-dessus. On ne va pas laisser les gens à la rue. Après, c'est vrai que ce qui est très très compliqué, c'est qu'on a un déficit d'anticipation aujourd'hui. On ne peut pas anticiper très facilement le nombre de personnes qui vont arriver. Donc je pense que les capacités d'hébergement, elles vont s'adapter aussi au fur et à mesure de l'évolution du conflit et des flux. On a quand même encore aujourd'hui l'espoir que les gens puissent retourner assez rapidement en Ukraine.
Pour l'instant, pas grand monde, mais vous anticipez éventuellement un conflit qui dure et deux, beaucoup de gens qui arrivent.
On est obligé de se préparer. Ouais. Voilà.
Parmi les donateurs ici, il y a beaucoup de gens du quartier. C'est un peu un village, ce quartier Jourdain. Écoutez Martine, par exemple, elle est retraitée. Elle passe tous les soirs déposer ses dons. Elle voudrait faire plus que ça encore.
Je trouve que c'est le minimum qu'on peut faire devant ces gens qui souffrent et qui n'ont rien et qu'on va devoir aider et héberger. Et je viens de lire que la mairie, dès demain, on pourra signaler si on peut héberger des gens. Et je le ferai, bien sûr, dans la mesure du possible. J'ai de la place chez moi et je peux loger. Je verrai comment ça se passe, mais si je peux, je le ferai.
C'est pas simple de loger des inconnus ?
Non, c'est pas simple. Je sais que mes petits-enfants et mes enfants seront peut-être un peu inquiets, mais moi non. Hein. Pendant tout le Covid, j'ai servi les personnes en difficulté, les personnes à risque, etc. Et je l'ai fait, voilà. Je pense qu'il faut aider quand même dans la mesure de ses moyens.
Delphine Rouillot, la question clé, c'est, alors, certes l'hébergement d'urgence, mais aussi la suite. Ça, c'est important de penser à la suite aussi.
Exactement. Ce que votre petit reportage montre, en fait, c'est cet élan de solidarité incroyable de beaucoup de Français qu'on connaît à chaque crise, en fait, à chaque grande crise internationale avec des enjeux comme ça d'accueil de réfugiés. Il y a un bel élan de solidarité. Mais la question, c'est comment on l'inscrit dans la durée. Ouais. Et votre journaliste pose une question intéressante à cette femme en lui disant, mais est-ce que vous êtes bien sûr de vous? L'hébergement citoyen, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui peut être utile et nécessaire si on se retrouve avec beaucoup de gens à devoir accueillir, mais il faut effectivement penser à un accompagnement pour que les personnes de ce bel élan de solidarité se retrouvent pas dans une situation complexe. Donc l'État quand même a une responsabilité qui est de porter cet hébergement même dans la durée, et c'est là où les collectivités locales et l'État doivent travailler ensemble.
Encore une question, demain il y a un statut particulier au niveau européen qui sera décidé, la protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens. Ça leur apporte quoi de plus, si j'ose dire?
En fait, ça leur apporte un cadre qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut demander l'asile quand on fuit une zone de guerre, mais demander l'asile, ça emporte des conséquences assez longues. On renonce à retourner dans son pays, etc. Là, l'activation de la directive sur la protection temporaire qui devrait avoir lieu demain, c'est une bonne chose parce que ça va permettre un cadre harmonisé dans tous les pays européens avec, pour les personnes qui seront bénéficiaires en France, des droits sociaux, le droit à une allocation, à un hébergement, le droit de travailler, ce qui n'est pas le cas pour les demandeurs d'asile, et donc véritablement un titre de séjour de 6 mois renouvelable, etc., quelque chose qui va leur permettre dès leur arrivée en France de pouvoir prendre leur marque, scolariser les enfants, enfin voilà.
Ça accélère la procédure et ça donne plus de droits.
Exactement.
Merci beaucoup Delphine Rouillot, France Terre d'Asile, d'être passée dans ce studio de France Inter improvisé ici, studio dans lequel passe lui aussi, il a l'habitude du 13-14, Jean Lebrun. C'est tout de suite
France Inter. Le 13-14.
Bonjour, cher Jean Lebrun. Le temps que Geoffrey Marianne tende son micro, je vous vois marcher dans cette rue de Palestine devant cet immeuble de jaune et de bleu décoré aux couleurs de l'Ukraine. On s'approche d'un autre des lieux importants ici, c'est l'église autocéphale Saint-Simon. Autocéphale, maître Jean, dites-moi tout.
C'est tout simple, Bruno. Les paroisses orthodoxes d'Ukraine, dès la première indépendance, et bien davantage après 91, ont cherché à se réunir pour échapper à l'autorité du patriarcat de Moscou. Et c'est chose qui a été à peu près réussie à partir de 2018-2019, grâce à la reconnaissance du patriarche de Constantinople. Ces églises indépendantes de Moscou sont réunies sous l'autorité d'un métropolite qui s'appelle Épiphane.
Il sait tout. En tout cas, église orthodoxe, donc indépendante de Moscou, 18 000 Ukrainiens en France. Votre vif de l'histoire, Jean Lebrun, est consacré aujourd'hui à la diaspora ukrainienne. Je le disais, ils sont 18 000 qui ont un titre de séjour aujourd'hui en France.
Oui, ce sont des chiffres un peu dérisoires par rapport à tout ce que vous avez évoqué depuis le début du journal. Elle a commencé cette diaspora modestement, après les pogroms de 1905 et la révolution inaboutie, et puis elle a pris une importance évidemment beaucoup plus grande après 1919-1920, mais on ne peut pas la distinguer aisément de l'immigration russe, puisque les autorités françaises, et pas davantage ce qu'on appelait l'organisation Nansen qui distribuait des passeports pour les apatrides, ne faisait la différence entre Russes et Ukrainiens, peut-être entre 20 et 40, 40 000 Ukrainiens.
Tiens, on va rentrer un petit peu dans les locaux parce que on s'est mis dans la rue, il y a pas mal de travaux. Le lendemain de la guerre, on manquait de main-d'œuvre industrielle.
Oui, alors ces Ukrainiens sont arrivés via la Pologne.
Oui.
La Pologne qui était moins accueillante qu'aujourd'hui, elle n'avait pas les mêmes dimensions géographiques, elle avait mordu sur l'actuelle Ukraine occidentale, les soldats et les officiers de l'armée ukrainienne indépendantiste.
Oui.
Donc ils ne sont pas restés beaucoup dans les camps polonais et un certain nombre ont cherché à venir en France. Alors c'était des nationalistes, mais pas seulement. On parle tous les jours de Makhno, le fameux anarchiste. Hein, vous vous souvenez de la chanson « Mes drapeaux sont noirs de nos peines, rouges de notre sang ». Sa compagne travaillait dans une fabrique de chaussures. Lui, il a fini dans la pauvreté à l'hôpital Tenon. D'autres ouvriers se sont regroupés très nombreux près de Montargis, dans le Loiret, dans une usine de caoutchouc, Hutchinson, qui fabriquait les bottes à la marque de l'aigle Deng Xiaoping, le chinois, avait travaillé là. Et ils ont été peut-être 2000 avec leur café, leur maison commune. De ces bâtiments généralement construits en bois, ben, il ne reste pas grand-chose. Mais deux petites églises subsistent. Une église orthodoxe, oui, comme celle où nous sommes, oui, et puis une église gréco-catholique. Mais je ne vais pas compliquer les choses, parce que c'est une terre d'écuménisme, d'une certaine manière, l'Ukraine, avec beaucoup de religions. Et là, il y a un monument en pierre au grand poète national Shevchenko, oui, qu'on cite tous les jours et qui avait écrit au 19e, Ukrainien, cherche où est ton destin. Il est parti droit devant lui. Tu es maintenant au bord, tandis que joue la mer. Les goélands volent vers l'autre rive.
Alors, là, il y a un peu d'écho parce qu'on est tout près de l'église.
C'est outre-Atlantique. On ouais. entre ?
Non, on n'entre pas parce que je pense que l'écho, ça va être compliqué.
Ah bon. on va pas entendre les goélands alors.
Non, on va pas.
C'est vers l'autre côté de l'Atlantique que les Ukrainiens ont été très nombreux à se rendre. Les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud aussi, hein, ouais, le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, où il y a eu tout de suite des manifestations contre l'invasion de Poutine. Et si on s'arrête un instant sur les Canadiens, les Ukrainiens ont une dilection pour le Canada. Il y avait des organisations qui permettaient le passage pendant l'entre-deux-guerres jusqu'à la crise de 1929, où du coup la France a repris un peu meilleur visage. Mais dans les années 1930, la diaspora ukrainienne est 10 fois moins nombreuse que dans les années 1920.
Et un tout petit mot, la diaspora en France, elle venait de Pologne, notamment les dernières décennies.
Oui, et la diaspora, elle est toujours susceptible de rentrer. C'est la question que posait votre invité, oui, de France, Terre d'Asile. On l'a même vu, mais est-ce que c'est anecdotique, des Russes et des Ukrainiens, après la Deuxième Guerre mondiale, séduits par Staline, et qui revenaient en URSS pour participer au combat. Ils croyaient prolonger les combats de la libération contre les nazis. C'était pas un choix judicieux. Beaucoup ont été mis en camp. L'exil ne s'interrompt jamais, Bruno.
Jean Lebrun, quasiment en impro sur cette diaspora ukrainienne dans la rue de Palestine, ici, où nous étions depuis 13h. Mathieu Vidard, vous êtes là ?
Oui, Bruno.
La Terre au carré, quel est le programme ?
Avec un homme très attendu, Jean-Marc Jancovici, pour parler énergie et climat.
Oui. Eh ben, on écoutera ça avec attention. Je voudrais dire un grand merci à Colin Gruel, Thibaut Cavaillès, Geoffrey Marianne, Martin Troadec et Laurent Segui pour cette édition spéciale du 13-14 auprès des Ukrainiens de Paris.